Adesso andiamo a Madrid, andiamo ad ascoltare il professor Enrique Bustamante Ramirez,
sì,
che è professore ordinario di comunicazione audiovisiva e pubblicità presso l'Università Complutense e che, direi soprattutto nel contesto del nostro convegno, ha fatto parte del Consiglio per la riforma dei mezzi di comunicazione di titolarità statale in Spagna ed è quindi uno degli autori o dei promotori della riforma del servizio pubblico spagnolo. Professor Bustamante.
Bonjour.
Bonjour. Je dois vous prier, monsieur le professeur, de nous indiquer quand il faudra changer de page dans votre présentation, parce qu'il y a un décalage de à peu près une minute entre vos mots et ce que nous percevons. Donc, vous devez nous dire quand il faut changer de page.
Oui, je vais le tenter.
Merci, monsieur le professeur. À vous.
Bonjour. Je remercie vivement les organisateurs de ce séminaire de m'inviter, surtout du Prix Italia et de l'Info Civica. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Et je vais tenter d'exprimer, de résumer mon intervention. Et, je suis désolé surtout pas seulement pour ne pas être là, mais aussi directement, mais aussi pour ne pas pouvoir voir des amis avec lesquels j'avais travaillé depuis 20-25 ans, comme des gens de Info Civica, Massimo Fischera, Bruno Somalvico, mon éditeur, qui ont fait tant de choses et tant de travaux pour les services publics, mais aussi avec des amis qui sont à la table, comme Philippe Schlesinger, Giuseppe Riccheri, Pierre Missot, Rui Cadiman, avec lesquels j'avais travaillé et partagé la défense du service public depuis tant d'années. Et pour commencer, pour résumer, on peut passer les premières pages qui sont une réflexion qui a déjà fait Pierre Missot sur les changements du service public à partir de sa fondation. Et je dois dire que j'avais écrit il y a quelques mois que les modèles classiques signalés par beaucoup d'auteurs, parmi d'autres Halley, Mancini, heureusement étaient en train de changer les dernières années et que surtout ces modèles polarisés qui avaient été signalés pour la Méditerranée, ces modèles latines, ces modèles de pluralisme polarisé, qui signalait surtout les cas de la France, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, était en train de changer, heureusement, les dernières années. J'ai signalé, par exemple, la réforme de la télévision publique, la radio-télévision publique à Portugal, dont Rui Cadiman peut parler plus bien, peut parler mieux, ou bien la réforme de l'Espagne. Et on peut passer les pages pour résumer sur la page sur l'Espagne, la réforme de radio-télévision espagnole. Et je disais surtout, j'écrivais qu'on pouvait être optimiste les dernières années, surtout ce siècle, sur un certain rapprochement du modèle des services publics, sur des minima importants, qualitatifs, et au niveau européen. Et j'ai signalé surtout dans la réforme de la radio-télévision espagnole de l'année 2006, et une réforme historique, qualitative, qui finalement avait trouvé un modèle après 30 ans de handicap pas exactement, pas très, très démocratique, une réforme qui avait et d'abord couper les liaisons parmi la radio-télévision publique espagnole et le gouvernement espagnol, qui avait fait la désignation de directeur général au président par le Parlement, qui avait suspendu l'endettement de presque 8000 millions d'euros de Radio Télévision Espagnole et avait trouvé un modèle de financement, un modèle de services publics pour les missions, contrats programmes, cadres pour les 9 ans, pour chaque 300, c'est-à-dire un modèle homologable avec les modèles classiques européens et même les modèles anglo-saxons. C'est vrai que la réforme espagnole avait d'autres visages, non? Par exemple, sous la pression des ministères du Trésor, on avait limogé quelques 4000 personnes, les plus âgés, mais des gens de 50 ans qui avaient une très bonne expérience dans la créativité dans les services publics. C'est vrai aussi que les promesses du gouvernement de Zapatero sur une loi générale de l'audiovisuel qui avait pour mission de contrôler, réguler les chaînes privées qui sont toujours comme parmi les plus dérégulées de l'Europe, avait failli, jamais ces projets de loi de l'audiovisuel avaient arrivé au Parlement, et non plus les projets promis de la création d'une autorité audiovisuelle indépendante, dont l'Espagne, c'est le seul pays européen où n'existe pas. Et maintenant, je suis moins optimiste et un peu plus optimiste, plus pessimiste, étant donné les réformes légales que le gouvernement Zapatero a réalisé cette année. D'abord, je dois rappeler que au mois de février de cette année, le gouvernement, par la voie d'urgence, a créé un décret qui on peut appeler de pro-concentration en éliminant les précautions existantes à la législation espagnole pour empêcher la concentration parmi les concessionnaires, les chaînes de télévision. Et c'est curieux parce que en 2006, le gouvernement avait ouvert les chaînes privées, les concessions à deux chaînes nouvelles en ouverte, et en arguant le pluralisme, la nécessité du pluralisme, du meilleur pluralisme dans la télévision espagnole. Et dans ce décret qu'on peut appeler pro-concentration, et on argumente aussi la lutte pour le pluralisme en permettant de faire encore, de se concentrer les chaînes privées jusqu'à trois chaînes, jusqu'à les 27% de l'audience et jusqu'à deux multiplex en télévision numérique terrestre. Et finalement, au mois d'avril, le gouvernement de Zapatero a annoncé une réforme complète du modèle de financement de télévision espagnole, sans qu'aucune instance civique ou publique aurait demandé cela, et en calquant, en copiant le modèle de Sarkozy en France, du rapport Copé, et en décrétant la fin complète de la publicité en télévision espagnole à partir du commencement du 2010. Mais le décret de changement de modèle de financement de télévision espagnole est plus large. Il inclut des limitations pour les spectres des hertziens, pour la télévision publique, pas plus de 25% du spectre, pas plus de 1% d'augmentation du budget jusqu'à 2012, tandis que la télévision espagnole doit faire face à presque 8000 heures nouvelles où c'était placée la publicité avec une production propre. Et on limite aussi le budget de télévision espagnole pour les événements sportifs, aussi le numéro des films, dans le prime time, avec une mention aux grandes productions internationales, très ambiguës. Mais surtout, il y a aussi toute une série de signes qui semblent penser à une contre-réforme sur la régulation audiovisuelle espagnole. Il y a aussi un projet de loi du gouvernement, finalement, de la loi générale de l'audiovisuel, qui donne des cadeaux incroyables à la télévision privée. Par exemple, les concessions seront pour 15 ans avec une rénovation automatique. On fait une interprétation, une lecture libéralisée de la directive dernière de l'Union européenne sur la publicité et on réduit les obligations des chaînes privées d'investir dans les cinémas européens le 5% des chiffres d'affaires, et presque à la moitié, en 60% du 5%, et en ouvrant ces pourcentages à la fiction télévisée sériale. C'était toujours des demandes des lobbies des privés, et spécialement, il faut le signaler, de Telecinco, la chaîne qui appartient à Mediaset, et qui, de cette façon, voit presque satisfait toutes ces demandes pour le gouvernement espagnol. En définitive, à partir de la situation espagnole, à partir de la réforme française expliquée très bien par mon ami Pierre Missot, on peut penser qu'on est en train d'assister à un certain éclatement du modèle européen des services publics qui va plus au-delà de la certaine diversité qu'on pouvait signaler auparavant et qui atteint une certaine dispersion, pas seulement des modèles modèles de financement, mais aussi des modèles de services publics tout court. Pour rattraper la question centrale du séminaire, du colloque, je dois être pessimiste à ces propos sur la création d'une télévision publique européenne. Je pense qu'à ce moment-là, il faut être réaliste. Il faut d'abord réaffirmer la nécessité du service public européen de l'information et de la communication. Mais il faut aller pas à pas, peu à peu, et en tentant de consolider les modèles qui existent et de l'éloigner du modèle des États-Unis. Ça veut dire, à mon avis, par exemple, tenter que la Commission européenne fait un modèle sur des minima qui vraiment peuvent confirmer, consolider les modèles des services publics européens. Il fallait exiger à la Commission européenne une clarification définitive des règles du service public. Il fallait penser à une coopération accrue lidérée par l'Union européenne de radiodiffusion, dont je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas exclure la possibilité d'une coopération accrue, renforcée parmi un noyau dur des pays européens. Il faudrait penser à des pas partiels, par exemple, au renforcement des Euronews, dont je rappelle, Radio-Télévision espagnole est sortie, malheureusement. Il faudrait travailler sur les noyaux de Arte, comme nous conseillons à Télévision espagnole à l'année 2005. Et je rappelle qu'il y a 7 ou 8 années, j'avais assisté à un colloque à Bruxelles avec André Lange pour travailler sur l'idée de créer une chaîne européenne de films et de fictions. Il faudrait travailler sur cette idée. Finalement, il faudrait travailler sur la nécessité de transformer le service public dans un éditeur multimédia capable de travailler à n'importe quel support avec des chaînes généralistes, thématiques, avec des contenus radiodiffusés, mais aussi sur des services interactifs, et de dosifier cet effort et de finalement commencer à augmenter une coopération de plus en plus dans des domaines particuliers. J'ai cité quelqu'un sur les journaux télévisés, l'information, les films, la fiction, la culture, l'éducation comme arte, et qui peu à peu peuvent aider à construire un espace public européen dont l'existence est encore toujours douteuse. Et l'idée de mon ami Giuseppe Ricchelli d'une agence européenne de produits élaborés ou semi-élaborés me semble très intéressante dans ce chemin de construire peut-être modestement, mais d'une façon réelle, cet espace public européen, cet service public européen dont la nécessité est, je pense, encore plus forte qu'aux années 80, quand Massimo Fischer et d'autres dirigeants de l'époque avaient tenté de réussir ce projet. Merci bien.
Merci, monsieur le professeur. Merci pour votre clarté, même téléphonique, et même pour la sobriété de votre intervention qui a été dans les temps. Dunque abbiamo sentito il professor Bustamante che, oltre a illustrarci quella che è la situazione spagnola, ci ha anche indicato questo éclatement del servizio pubblico europeo, e pur dando anche lui una risposta negativa all'interrogativo del titolo del convegno, ha anche prospettato una sorta di riforma permanente e ha lanciato quest'ipotesi di cooperazioni rafforzate nel settore dell'informazione, nel settore della televisione.